RFI Matin, la suite, un nouveau journal dans moins de 20 minutes et les combats à l'est de la République démocratique du Congo à nouveau à la une. Alors que le porte-parole de l'armée congolaise se dit déterminé à ne pas laisser le M23 soutenu par le Rwanda entrer dans Goma, la capitale du Nord Kivu, privé d'électricité et en manque d'eau. Reportage d'Héritier Baraka à 6h, temps universel. À suivre d'ici là, notamment l'Afrique en marche avec Frédéric Gara, rencontre avec une architecte malienne qui lie les techniques moderne et les techniques ancestrales de construction à base de terre. Mais tout de suite, les sports. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Julien.
Le championnat camerounais dispute aujourd'hui sa 9e journée. C'est du foot. Et le tout dans un climat très inconfortable pour les entraîneurs.
Bah oui, parce que ce qui marche le mieux en ce moment, c'est le siège éjectable. 6 clubs ont déjà décidé de se passer des services de leurs techniciens. C'est l'impatience ou l'agacement des présidents face à certaines demandes qui entraînent cette instabilité, dénoncée évidemment par les défenseurs du métier d'entraîneur. À Yaoundé, Joël Wadem.
La 9e journée du championnat de première division sera particulière pour Union de Douala, Bambutos de Bouda et Aigle du Mongo, dont les nouveaux entraîneurs feront leur début. Polycarp Okemonye, président du club de Douala, donne les raisons du changement de son coach principal.
Nous nous sommes sentis obligés de nous séparer de notre entraîneur pour l'insuffisant de résultats. Après analyse, on s'est rendu compte que si dans la manière de jouer, ça ne changeait pas, les résultats ne pouvaient pas suivre.
C'est un problème d'éthique qui a conduit Gélis Njapom, président de Panthère de Baganté, à licencier son entraîneur.
Il est venu là diviser l'équipe. Pour jouer, il faudrait vous partager les points de match. Il ne privilégie pas les compétences. C'est celui qui va donner l'argent qui va jouer.
Ces différents changements sont plutôt appréciés par Angel Bembaga, directeur technique national à la FECAFOOT.
Lorsque vous n'avez pas de résultats, vous devez comprendre que votre travail ne porte pas encore ses fruits et qu'il peut porter ses fruits ailleurs.
Michel Karam, président de l'Association des entraîneurs de football, dénonce cette politique de changement.
Quand vous remplacez un entraîneur au bout de 6 journées, vous l'avez reculé donc pourquoi? Je pense qu'il faut au moins attendre la fin des matchs, aller faire un bilan. À moins que ce soit vraiment une faute grave, mais ça ne peut pas être lié à l'incompétence. Tous les entraîneurs de Lead One sont diplômés à CAF.
Au terme du championnat, on saura si les différentes formations ont eu raison de remplacer leur entraîneur. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
À la une également le basket, la NBA et l'éclatante revanche des Indiana Pacers sur les San Antonio Spurs lors du second match délocalisé de la Ligue nord-américaine à Paris.
Victoire nette et sans bavure, 136 à 98. L'un des grands artisans de ce succès, c'est Pascal Siakam, l'ailier camerounais. 23 points et 11 rebonds. Le natif de Douala, satisfait d'avoir su montrer un autre visage de l'équipe après avoir été surclassé. Et au final, malgré tout...
Très bonne semaine, je veux dire. Premier match, pas trop, on veut l'oublier. Mais après ça, je pense que ouais, nous sommes venus en équipe. On a eu de bons moments en équipe. Le public était fantastique. L'hôtel... Partout où nous sommes, c'est genre tout le monde est très bien avec nous et ouais, ça fait plaisir. L'accueil était chaleureux et vraiment ouais, merci Paris pour tout. Beaucoup plus de bons souvenirs que de mauvais, donc ouais, ça va. Le match passé et tu regardes le match d'aujourd'hui, tu vas voir la différence. Donc pour nous, c'est notre identité et on doit le faire tous les jours, c'est ça le challenge.
Pascal Siakam avec Victor Missistrano, prochain match des Pacers dans la nuit de mercredi à jeudi aux États-Unis contre les Pistons de Détroit. Les Spurs, eux, recevront au même moment les Clippers de Los Angeles.
Et puis le mondial masculin de handball, un dernier effort pour l'Égypte en vue d'une qualification pour les quarts de finale.
Pas le plus gros a priori puisque les champions d'Afrique disputent leur dernier match du tour principal à Zagreb contre le Cap-Vert déjà éliminé, mais il ne faut surtout pas le prendre à la légère car les Pharaons sont engagés dans une lutte à 3 pour 2 places avec la Croatie et l'Islande également en lice contre des nations hors course ou dans une situation désespérée. Coup d'envoi de ce match, 17h TIF.
Merci Christophe Diremzian, à tout à l'heure. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse, les hebdomadaires et les journaux du dimanche. Et à la une, l'Europe face à l'ouragan Trump.
Face à Trump, la riposte de l'Europe, titre la Tribune dimanche. Quelle riposte serait-on tenté de dire? Car les Européens sont pétrifiés après cette rude semaine marquée par le retour du bulldozer Trump, observe le journal. Le langage fleuri et agressif du successeur de Joe Biden, qui a fait de l'esbrouf et du coup de menton les fondements de sa politique, aurait dû déclencher une mobilisation tous azimuts sur le vieux continent. Raté, poursuit la Tribune dimanche, la charge attendue du nouveau maître de la Maison-Blanche a laissé les Européens sans voix ou presque. Et l'avenir n'est pas engageant, selon le journal, qui enfonce le clou. L'Europe, si elle verse dans le défaitisme et le fatalisme, risque de perdre les valeurs qui lui ont permis de connaître 80 ans de paix et de prospérité.
80 ans, en effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Demain, lundi 27 janvier, marquera d'ailleurs le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz.
Et les rescapés des camps de la mort sont rares. Seuls 12 d'entre eux sont encore en vie en France, nous dit le Nouvel Obs, qui a rencontré Esther Dixonneau, 97 ans, et Ginette Kolinka, bientôt centenaire. Toutes deux continuent à transmettre la mémoire de la Shoah. À Birkenau, précise l'hebdomadaire, Esther a fait la promesse à sa grande sœur Fanny de témoigner. Elle était à l'infirmerie, crachait le sang. Elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit « C'est fini pour moi, mais toi tu vas tenir et raconter pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. » Mais pour Esther, comme pour Ginette, il a fallu du temps avant de pouvoir témoigner. Après la guerre, raconte Esther, on ne passait pas inaperçu avec nos têtes rasées et nos silhouettes cadavériques. J'ai commencé à tout raconter, mais les gens pensaient que j'inventais. Longtemps, ça n'a pas été possible de parler. Ginette, elle, a d'abord voulu tout effacer, poursuit le Nouvel Obs. Elle ne dira rien, ni à son mari, ni à son fils, jusqu'au début des années 2000 et l'appel de la fondation de Steven Spielberg, qui récoltait des témoignages pour le mémorial Yad Vashem en Israël. Aujourd'hui, malgré leur grand âge, Esther Dixonneau et Ginette Kolinka continuent de témoigner, de transmettre la mémoire de la Shoah, particulièrement dans les écoles.
Et notez que demain, RFI vous propose une journée spéciale avec de nombreux rendez-vous consacrés au 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Ginette Kolinka sera l'invitée d'Arnaud Pontus à 7h15, heure de Paris. Pour l'heure, Catherine, on revient à la presse hebdomadaire qui fait aussi ses gros titres sur les relations houleuses entre la France et l'Algérie.
C'est tout d'abord Marianne qui s'exclame en une « Algérie, le chantage, ça suffit !» Derrière la haine de la France, un régime aux abois, ajoute l'hebdomadaire, qui revient sur les événements de ces derniers mois et particulièrement sur l'arrestation en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. La fuite en avant radicale contre la France du président algérien Abdelmadjid Tebboune, accuse Marianne, ne vise qu'à susciter des réflexes nationalistes pour soutenir sa personne. L'hebdomadaire a interrogé Chaouki Benzera, un opposant algérien. À ses yeux, le régime, devenu très fébrile, a maintenant une approche belliqueuse des relations internationales teintées de complotisme. Le gouvernement de Tebboune, dit-il, utilise ces crises, notamment avec la France, ainsi que l'histoire coloniale, pour détourner le regard de la population algérienne des problèmes que traverse le régime. Au lieu de construire un vrai état de droit avec des institutions dignes de ce nom, accuse cet opposant, le régime passe son temps à dénoncer un complot macronito-sioniste contre l'Algérie.
Les relations entre la France et l'Algérie, il en est aussi question dans l'Express, Catherine.
C'est à la une de l'hebdomadaire, la photo du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec cette phrase « Rien ne donne à l'Algérie le droit d'offenser la France ». Un avertissement signé du ministre lui-même qui est longuement interrogé par l'hebdomadaire. Il revient notamment sur l'expulsion du territoire français de l'influenceur algérien Doualem, accusé de mener une campagne de haine contre un opposant algérien et que l'Algérie a refusé de reprendre sur son territoire, le renvoyant en France. Bruno Retailleau accuse l'Algérie de ne pas avoir respecté le droit international. Quant à Boualem Sansal, il a été arrêté injustement, accuse le ministre. Il est détenu scandaleusement par le régime algérien, c'est inadmissible. Bruno Retailleau qui hausse le ton et plaide pour un meilleur contrôle des entrées sur le territoire français. Nous sommes trop généreux, dit-il, révélant par ailleurs qu'il n'a plus aucun lien institutionnel avec l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur qui appelle toutefois à normaliser et dépassionner la relation diplomatique de la France avec l'Algérie.
Catherine Potet pour la revue de presse, merci beaucoup.
RFI Matin.
Et dans l'Afrique en marche, ce dimanche, portrait d'un talent de l'architecture au Mali. Mariam Sy est l'une des figures de l'architecture ouest-africaine avec ses bâtiments qui allient la modernité et les techniques ancestrales de construction à base de terre. Une construction adaptée au climat subsaharien et respectueuse de l'environnement, Frédéric Gara.
À 15 ans, j'ai dit à mes parents « je veux être architecte ». Ils ont trouvé que c'était une bonne idée et j'ai dû sortir de l'école de jeunes filles pour aller faire un lycée professionnel à Bamako.
Après ce lycée technique, Mariam Sy obtient son diplôme d'architecte en Belgique et enchaîne une formation complémentaire en France, à Grenoble. Mariam, devenue aujourd'hui l'une des références en matière d'architecture traditionnelle, c'est d'ailleurs à Grenoble, au centre de recherche et d'application en terre, le Cratère, que cette quadragénaire a perfectionné son savoir-faire avec l'usage des matériaux traditionnels.
Que ce soit la terre, la pierre ou tout ce qu'on peut trouver localement, l'idée c'est vraiment d'utiliser le moins d'énergie possible pour construire et d'utiliser avec le matériau adéquat pour la température du lieu. Et il s'avère qu'au Mali, la terre est un des matériaux locaux les plus répandus et les plus connus. L'avantage pour nous, sahéliens, c'est un matériau qui s'adapte vraiment à notre climat.
Dès lors, à Bamako, Mariam Sy, au sein de son cabinet architecte, multiplie les constructions de maisons ou de centres médicaux, mais aussi la rénovation de mosquées, notamment à Tombouctou, une technique architecturale qui séduit de plus en plus de clients au Mali, mais aussi en Afrique.
Cette question d'architecture éco-responsable, c'est une question qui concerne tout le monde, même si au Sahel, on sait qu'on n'a pas les plus gros consommateurs d'énergie, on subit quand même les conséquences de cela. Donc, il est important qu'on prenne en compte aussi les nouvelles technologies, les questions qui se posent à tout le monde et qu'on se l'applique à nous.
C'est presque un acte militant que vous faites en étant architecte.
Bien sûr. On considère que voilà, nous sommes des militants au niveau du réseau FACT Sahel dont je vous ai parlé. Pour nous, vraiment, le travail qu'on fait, c'est du militantisme.
Ouais. Dans ce réseau, il y a des architectes, il n'y a pas que des architectes.
Non. Il y a des maçons, des ingénieurs, des architectes, des étudiants, des chercheurs, des écrivains. Vraiment, on est un réseau.
Il y a toute une réflexion autour de ces enjeux-là.
De comment expliquer aux gens le retour donc à ces matériaux et qui ont vraiment beaucoup d'avantages sur beaucoup d'aspects de la vie, pas seulement sur la construction.
Au sein de l'association FACT Plus qu'elle a cofondée, Mariam Sy participe à cette réflexion à propos d'un retour aux techniques africaines de construction adaptées à un monde moderne, ce qui correspond à un mouvement de fond, comme l'explique un autre architecte français, Jean-Marc Lalot, qui organise régulièrement sur le continent africain des séminaires d'échange entre architectes des deux continents.
Il y a à la fois une question d'identité architecturale africaine, un engouement pour retrouver des techniques traditionnelles de construction en terre. Et puis la deuxième chose, c'est aussi un des points d'avenir de l'Afrique, c'est de faire un saut directement vers des constructions avec des matériaux biosourcés, des matériaux locaux. Et la terre est parfaitement adaptée à ça, en fait. En fait, il y a eu plusieurs architectes africains qui ont beaucoup travaillé sur ces points. Hassan Fathi, par exemple, en Égypte, avait beaucoup lancé ses projets autour de la construction en terre. Mais par contre, depuis que Francis Kéré a reçu le prix Pritzker, il y a des choses qui bougent. Il y a des pays qui mettent ça en avant, qui veulent effectivement aller vers cette direction-là. Je pense au Bénin, le Sénégal. Alors, il y a le Maroc aussi, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Il y a un centre de la construction en terre au Maroc qui a été ouvert il y a quelques années. Et puis le Bénin, le président a fait quelques commandes à Francis Kéré, dont l'Assemblée nationale était basée beaucoup sur l'utilisation de la terre, avec le BTC, la brique de terre comprimée. Et là, on le retrouve au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso aussi.
Prochain projet pour Mariam Sy, qui allie modernité, usage des techniques traditionnelles et conception éco-responsable, un centre scolaire en terre à Bamako, histoire que l'architecture durable continue de faire école au Mali.
Frédéric Gara pour l'Afrique en marche. Bientôt 6h en temps universel et sur la radio du monde avant le journal dans moins de 4 minutes maintenant. De la musique et le rappeur brésilien Criolo. Son titre C'est Acaso Voce Chegas dans la sélection du mois des RFI.
Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco a beber. madeira e um regado de um bosque em flor. De dia barabum, de noite barabum, para e assim nós vamos vivendo de amor. Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato de um bosque em flor. De dia para bumbum,
c'est Acaso Voce Chegas, je ne suis pas sûr de la prononciation. Avec le Brésilien Criollo, c'est dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez bien sûr sur musique.rfi.fr. Et le journal dans une minute.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Je vous emmène dans l'océan Indien pour vous raconter l'histoire d'une île Mayotte, celle d'un archipel les Comores, terre de sultans et de pirates, de rivalité impériale, de divorce entre frères, du 7e siècle à aujourd'hui, plongée dans l'histoire mouvementée du dernier département français, le premier en terres africaines.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.